Chérie, chérie, maman, elle est descendue. Viens, va avec. Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi une vraie joie d'être là devant vous. Et comme ça l'a été dit peut-être plusieurs fois aujourd'hui, c'est la fête de l'Église. Aujourd'hui, nous fêtons, et donc j'ai décidé de parler de tristesse. De parler de la tristesse de Jésus. Ça nous a été rappelé en début de culte, Jésus a été attristé. Il a été attristé non seulement lorsqu'il a pleuré la mort de l'un de ses amis, Lazare, mais surtout, la nuit de son arrestation, Jésus a été triste à mourir. Qu'est-ce que cette tristesse, cette intense tristesse de Jésus peut nous enseigner au sujet de la foi ? Elle nous montre que les émotions sont normales. La foi, grandir dans la foi, ne consiste pas à être transformé en un robot qui ne vit plus des émotions. Nous avons toutes et tous été créés par Dieu avec les émotions. Et l'Évangile ne consiste pas uniquement à croire ce qui est juste ou à croire les bonnes choses, à mettre en pratique ces choses, mais il consiste également à ressentir les bonnes choses. Alors, soyez rassurés, mon intention n'est pas de vous attrister. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas de parler de la tristesse, de la reconnaître, de la nommer, qui nous rend triste. Ce qui nous attriste, c'est de perdre ce que nous aimons. Bien plus, le remède à la tristesse, ce n'est pas de parler de joie. Et malgré toute la réflexion, toute la méditation, toute la prière que j'ai pu mettre dans la préparation de cette prédication, ce n'est pas en vous parlant de joie que je vais consoler celles et ceux qui aujourd'hui sont attristés. Il est normal d'être triste, et nous lisons donc Matthieu au chapitre 26, les versets 36 à 46. Le texte qui précède justement son arrestation. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière, « Mon Père, si cela t'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi ? Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme, la chair, est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint, les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Alors, pour bien situer ce passage, nous sommes juste après le dernier repas de Jésus. C'est typiquement ce qui est symbolisé en fait par cette fresque. C'est le jeudi soir, Jésus mange la Pâque avec ses disciples. Et après ce repas de fête, il nous est dit que Jésus se rend au jardin de Gethsémané, qui est un jardin à Jérusalem. Et dans ce jardin-là, il va se mettre à prier parce qu'il est saisi d'angoisse et de tristesse. Et juste après ce passage, nous avons le fameux moment où Jésus est trahi par Judas, où Judas, accompagné des gardes du temple, s'approche de Jésus et par un bisou, en lui faisant la bise, il dénonce Jésus aux gardes et c'est à ce moment-là que Jésus est arrêté. Et moi, ce qui m'a frappé en lisant ce passage, le premier élément qui m'a vraiment frappé, c'est la différence entre ce que Jésus vit et ses disciples. Jésus est saisi de tristesse et d'angoisse, et il le dit même jusqu'à en mourir, il est incapable de trouver du repos, et ses disciples, eux, dorment paisiblement. Alors, peut-être qu'ils avaient trop mangé au repas de la Pâque, qu'ils avaient besoin de digérer, que pour eux c'était difficile de rester éveillé. Ou peut-être qu'ils ont sorti, je ne sais pas si vous jouez au Uno, ils ont sorti la carte reverse du Uno. Parce qu'en fait, un peu plus au début du livre de Matthieu, on trouve une histoire similaire, mais inversée. Jésus et ses disciples sont dans une barque, une tempête se lève, si violente que la barque est recouverte par les vagues, et Jésus, lui, au milieu de cette tempête, il dort. Et donc les disciples terrifiés le réveillent en lui disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir ». Et donc c'est à ce moment-là que Jésus se lève, calme la tempête, et les disciples sont stupéfaits. Deux récits, deux situations terribles. L'une est prise dans une tempête, l'autre, c'est Jésus qui sait qu'il va être arrêté et qu'il va vivre la passion. Et dans ces deux récits, le vécu de Jésus et de ses disciples est inversé. Ces deux récits nous montrent à quel point on peut être ensemble et vivre émotionnellement des réalités différentes. Vous savez, peut-être que ce matin-là, c'est la fête. Alors, je l'espère qu'il y en a quand même quelques-uns qui se réjouissent de faire la fête. J'espère. Mais il y en a peut-être qui se sentent coupables de faire la fête. Coupable parce qu'un proche, parce que quelqu'un est actuellement en train de souffrir et ils se disent de quel droit je me permets de faire la fête. Il y en a peut-être même certains qui ont peur de faire la fête parce qu'il leur est déjà arrivé à des fêtes que les choses dégénèrent, c'est généralement des fêtes de famille, et que du coup ils appréhendent de faire la fête. Il y en a peut-être même qui sont en colère que nous fassions la fête. Comment est-ce qu'on peut se permettre de faire la fête alors qu'il y a autant de souffrance dans le monde? Ne devrions-nous pas pleurer toute la journée? Notre vécu émotionnel, ce que nous vivons intérieurement, est différent les uns des autres. Et il ne suffit pas de s'asseoir à côté les uns des autres pour nous partager, pour exprimer ce que nous vivons. Et là, Jésus, c'est très intéressant la façon dont il vit ses émotions. Il ne dit pas qu'il n'est pas triste. Il ne fait pas semblant de ne pas être triste. Non seulement il le vit dans son corps, mais il l'exprime. Et ça, c'est le premier encouragement que j'aimerais vous donner. Exprimez vos émotions. Exprimons-nous nos émotions les uns aux autres. Vous savez, je ne peux pas deviner ce que vous vivez intérieurement. Lorsque vous êtes dans la détresse, je ne peux pas le savoir. Une émotion a besoin d'être exprimée. Et exprimons également nos émotions à Dieu. Et comme Corinne l'a très justement dit, nous pouvons tout dire à Dieu. Dieu peut écouter tout ce que nous avons au-dedans de nous. Et non seulement il peut écouter, mais il peut le comprendre. Parce que Dieu lui-même, Jésus, a été en colère, a été rempli de joie, a été triste jusqu'à en mourir, a été rempli de, on pourrait même dire là, un peu de peur. Et donc ça, c'est le premier élément que j'aimerais mettre en avant. Le deuxième, c'est ce que ce texte nous montre de Jésus. Jésus est Dieu. Jusque-là, vous me suivez. Et quand on s'imagine Jésus, on a souvent l'impression, c'est facile pour nous d'imaginer de quelqu'un de calme. Jésus est calme. Jésus est dans la paix. Jésus parle tranquillement. Il attend que les choses se passent. Il est imperturbable. En tout temps, il est confiant. Jésus maîtrise toujours la situation. Et là, dans ce texte, on voit un vrai dilemme qui se pose à Jésus, une vraie tension. Non, le fait que Jésus soit Dieu, ça n'a pas rendu sa mission facile pour autant. Vous savez, on a souvent cette impression comme si tout était facile pour Jésus. Comme si il suivait un long fleuve tranquille, puis Jésus, il n'a plus qu'à se coucher dans ce fleuve et puis laisser le fleuve descendre, et puis que rien ne lui est compliqué. Et là, dans ce récit, je dirais pour presque la première fois, ou en tout cas de façon la plus évidente, Jésus va aller jusqu'à dire, non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus, intérieurement, devant ce qu'il attend à la croix, est face à un vrai dilemme. Et ce que Jésus accomplit ce soir-là, il ne l'accomplit pas facilement parce qu'il est Dieu, il l'accomplit entièrement, complètement, mais quand même avec une certaine difficulté. Alors, on ne va pas dire que Jésus, là, était sur le point de lâcher. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, malgré cette tension, malgré cette tristesse intense, Jésus ne se laisse pas gouverner par ses émotions. Le texte insiste à trois reprises. À trois reprises, Jésus s'éloigne pour prier. Et à trois reprises, en revenant, il voit ses disciples qui dorment. Cette répétition est là pour insister, pour montrer que Jésus était face à une vraie difficulté, mais que Jésus, à la fin, choisit non pas d'être gouverné par sa tristesse, il n'est non pas guidé parce qu'il ressent, mais parce que Dieu veut. On peut être très technique en parlant des émotions. Il y a des très gros livres qui ont été écrits sur les émotions. Si je résume les choses très sommairement, les émotions reflètent ce que nous considérons comme important. Lorsque nous avons peur, c'est que nous considérons que quelque chose nous menace. Il s'agit d'une menace importante. Lorsque nous sommes joyeux, parce qu'effectivement, il nous arrive aussi d'être joyeux, c'est parce que nous estimons que ce que nous vivons, cette joie qui vient, est importante. Et lorsque nous sommes tristes, c'est parce que nous considérons que ce que nous venons de perdre est important. Ici, Jésus le sait, il est face à la mission la plus importante qu'il ait. Il est conscient de l'importance de ce que Jésus s'apprête à faire en étant arrêté. Parce que Jésus n'est pas venu juste pour enseigner, il n'est pas venu juste pour guérir des malades, pour chasser des démons, il n'est pas juste venu sur terre pour faire coucou, mais Jésus est venu sur terre pour mourir à notre place. Et Jésus a conscience que sa mission est cruciale. Il est essentiel que Jésus aille au bout de ce que Dieu avait prévu pour lui. Et Jésus est conscient de toute la portée de ce qu'il va vivre. C'est-à-dire que Jésus non seulement va perdre la vie, mais il nous est dit que Jésus va être fait malédiction pour nous. C'est-à-dire qu'il va porter le péché du monde sur lui, il va porter les fautes de tout le monde sur lui, et donc il va être séparé de Dieu. Et ça, on le retrouve très fort dans cette fameuse phrase qu'il a sur la croix, « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus sait qu'il va être séparé de son Père. Jésus sait qu'il va souffrir physiquement, mais aussi spirituellement. Et voilà pourquoi Jésus, le soir juste avant son arrestation, va être saisi d'angoisse et de tristesse. Pour finir, ce texte nous pose une question. Quelle est notre attitude face à la croix, face à cette soirée que Jésus a passée? Sommes-nous endormis comme les disciples? Est-ce que lorsque l'on parle de Jésus qui a été arrêté, torturé, crucifié, on s'endort paisiblement en se disant « c'est pas pour moi, ça ne me concerne pas » ou est-ce que nous sommes pris au fond de nous en nous disant « c'est pour moi que Jésus l'a fait, c'est pour moi que Christ a été jusqu'au bout et qu'il n'a pas renoncé ». Sommes-nous endormis dans notre foi ou est-ce que nous laissons l'Esprit de Dieu nous réveiller? À deux reprises, dans ces deux récits, les disciples dorment ou bien c'est Jésus qui dort et on voit ce décalage qu'il y a entre ce que Dieu vit intérieurement et ce que ses disciples vivent. Et c'est peut-être possible que nous aussi, en tant que disciples, nous vivions en décalage émotionnellement entre ce que Dieu veut, entre ce que Dieu vit et notre propre existence. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que notre réalité, ce que nous vivons intérieurement n'a pas le dernier mot. Ce n'est pas parce que je suis dans la détresse, que cette détresse doit me gouverner. Mais ne pas se laisser gouverner par sa détresse, ça ne veut pas dire la nier ou l'ignorer. Jésus a posé des mots dessus. Et c'est là que ça peut paraître paradoxal, mais le fait que Jésus ait été au bout, le fait que Jésus ait été triste et qu'il soit allé jusqu'à la croix pour mourir et ressusciter, paradoxalement, c'est pour nous un sujet de joie. Parce que ce que Jésus a fait, il l'a fait à notre place. Jésus a porté nos fautes, et donc, dorénavant, nous pouvons nous réjouir parce que Christ a tout porté. Je vais prier. Seigneur, ce matin, on veut s'approcher de toi tel que nous sommes. Et même si le fait que nous soyons réunis pour faire la fête, tout concourt à ce que nous soyons joyeux, tu connais nos cœurs, tu sais comment nous nous sentons intérieurement. Et je te prie que nous puissions t'adresser notre vécu intérieur. Seigneur, on veut venir vers toi tel que nous sommes, te déposer nos fardeaux, nos détresses, nos joies et être renouvelés par ton esprit. Viens, Seigneur Jésus, et renouvelle-nous. Et Seigneur, on veut te prier qu'on puisse se porter les uns les autres et réellement faire la fête ensemble. Viens, Seigneur Jésus, gouverne nos vies. Amen.